Vous êtes sur Radio B 90.0, la radio des bonnes ondes, dans l'émission de Paul Turchet et Bruno Point, musique au pluriel. Nous allons continuer aujourd'hui une série d'émissions que nous avions engagées sur les compositeurs français, en traitant deux compositeurs de moindre renommée que d'autres, en l'occurrence Paul Dukas et Gabriel Pierné, qui ont déjà une première particularité, c'est qu'ils sont vraiment de la même époque. Paul Dukas est né en 1865, décédé en 1935 à Paris pour sa naissance et son décès. Gabriel Pierné est lui né en 1863 à Metz et décédé en 1937 à Plougen en Bretagne, dont il était amoureux. Paul Dukas, issu d'une famille juive avec un père banquier et une mère pianiste, donc il a initié dès son plus jeune âge. Gabriel Pierné, lui, a un père professeur de chant et une mère professeur de piano, donc autant dire qu'il était dans le bain dès sa tendre enfance. Paul Dukas aurait été, Paul nous le traitera puisque c'est lui qui va parler de Paul Dukas et moi-même j'enchaînerai avec Gabriel Pierné. Donc, Paul Dukas était un compositeur très exigeant, qui peut quelquefois être austère, mais nous verrons que son œuvre majeure ne l'est pas. Et Gabriel Pierné, lui, est tout à fait l'opposé. Donc, c'est intéressant de montrer que deux personnes, et c'est bien normal, peuvent à la même époque engendrer des musiques totalement différentes du fait d'un caractère et d'une nature très différentes. Gabriel Pierné a fait une grande carrière de chef d'orchestre et il s'illustre par une musique d'une facilité déconcertante. Il écrivait tout à fait naturellement et sa musique est très joyeuse et très jolie. Je n'aime pas ce mot de joli, mais dans son cas, il est noble. Paul Dukas étant lui plus austère, je l'ai dit. Donc nous allons commencer par Paul Dukas et je donne donc la parole à Paul qui va nous parler de Paul Dukas.
Commençons en effet cette émission par Paul Dukas. C'est un compositeur et surtout un professeur majeur de son époque, né en 1865, mort en 1935. Dukas, au contraire de Pierné, a un problème majeur. Ce problème, c'est le perfectionnisme. Alors, c'est plutôt une qualité en général d'être perfectionniste, mais là, ça ne devient plus une qualité pour ce qui concerne Paul Dukas. Ça devient un handicap total qui bloque en fait son inspiration musicale. Il va laisser une trentaine d'œuvres derrière lui, donc très petites compositions, parce qu'il va en mettre bien, bien plus à la corbeille à papier que les œuvres qui resteront. Il compose, ça ne lui plaît pas, et hop, ça passe à la trappe dans l'oubli. C'est dommage parce qu'il est surdoué. Sa mère pianiste meurt alors qu'il a 5 ans, mais il est très doué et à 16 ans, il rentre au conservatoire de Paris. Il aura le deuxième prix de Rome, il sera professeur, je dirai un mot sur ses élèves prestigieux, ce qui démontre évidemment l'influence majeure de Paul Dukas. Il sera organiste à la Madeleine. Il va remplacer ni plus ni moins que Vidor au poste d'organiste à la Madeleine. Et il va composer donc différentes pièces, dont la plus connue, et nous y voilà, tous nous la connaissons, tous. C'est l'une des œuvres musicales les plus connues de l'histoire, car elle a été, on va dire, exploitée dans le bon sens du terme par un génie du dessin animé qui s'appelait Walt Disney. Walt Disney, en 1940, il veut relancer un petit peu la carrière, entre guillemets, d'un de ses personnages principaux, Mickey Mouse. qui est passé dans les cartoons, mais dont la carrière, on va dire, s'épuise un peu. Et Walt Disney va utiliser pour le dessin animé Fantasia, où Mickey est aux prises avec les sceaux qui ne lui obéissent plus, pour exploiter, avec d'autres tableaux musicaux d'ailleurs, mais parlons de l'apprenti sorcier, le dessin animé Fantasia, où Mickey, et c'est inspiré d'un poème de Goethe ancien, vole le chapeau magique de son maître, et il trouve que c'est bien parce qu'il commande au balai et au sceau d'aller verser directement dans le puits ou dans le réservoir les seaux d'eau, et que cela lui évite de porter, évidemment. Mais tout cela s'emballe, il ne maîtrise plus les seaux, il ne maîtrise plus les balais, c'est une inondation presque du sol au plafond. Et son maître, qui s'était endormi, se réveille, remet tout ça en ordre, et donne un coup de pied aux fesses à Mickey. Voilà. Walt Disney a ce génie d'utiliser cette musique, et presque d'inventer la stéréo, en tout cas au cinéma, de placer plusieurs haut-parleurs pour que les spectateurs du dessin animé profitent à fond de la musique. Donc voilà cette œuvre, qui est son œuvre absolue, 1897. Elle est magnifique, et nous allons l'écouter, et puis nous allons même la prolonger dans le temps ensuite.
Thank you. Thank you.
L'évocation de la vie de Paul Ducas me fait penser à un livre que je viens de terminer. C'est un livre qui a été écrit par le grand pianiste Arthur Rubinstein, les jours de ma les années de ma jeunesse, où il relate sa rencontre avec Paul Ducas, qui non seulement était perfectionniste, mais qui trop perfectionniste, mais qui en outre était d'un caractère un peu bourru. Et le jeune Rubinstein, adolescent à l'époque, qui commence à être très connu à Paris et ailleurs, bourré de dons évidemment, est présenté à Paul Ducas. Il est presque encore en culotte courte et vraiment il est pétri de stress. Et il raconte dans son livre que Paul Ducas l'a accueilli avec une gentillesse absolue, lui a montré les œuvres qu'il était en train de composer. Et bref, Rubinstein en est ressorti tout esbaudi, comme on disait. Alors, donc Ducas fait le Conservatoire de Paris, il y enseignera plus tard, et de quelle façon ? Parce qu'il aura des élèves qui deviendront des compositeurs prestigieux. Darius Milhaud, par exemple. Olivier Messiaen, dont on connaît évidemment ensuite la carrière. Jehan Alain. Tony Aubin. Maurice Duruflet, qui sera un très grand organiste et compositeur. Jean Hubeau, professeur au conservatoire et excellent pianiste et compositeur. Et puis aussi Elsa Barène, qui fut une compositrice élève de Ducas, qui composa environ 150 œuvres, qui fut résistante pendant la guerre et qui fut vraiment une compositrice importante. Donc il passe au conservatoire, il enseigne au conservatoire, il a ses élèves tout à fait prestigieux, et puis il va composer bien sûr d'autres œuvres. Une symphonie, il en aurait écrit une deuxième passée à la Corbeille, une sonate pour piano énorme de 40 minutes, des variations, et son opéra Ariane et Barbe Bleue, qui est assez remarquable, et un ballet qui s'appelle La Pairie. Donc vous voyez, en tout, je ne parle pas des œuvres plus mineures et peut-être moins connues, mais en tout, très peu d'œuvres dans toute une carrière. Il meurt donc effectivement à Paris en 1935 d'un infarctus. Et nous allons écouter maintenant, nous allons rester évidemment dans l'apprenti sorcier. Les autres œuvres sont intéressantes, mais il faut les couper, elles sont souvent très longues, ça n'est pas facile pour notre émission. Dans l'apprenti sorcier, joué tour à tour par une magnifique pianiste à tout point de vue qui est venue donner un récital à Bourg-en-Bresse il y a quelques années, Béatrice Berru, et puis une transcription, donc transcription de l'apprenti sorcier joué par Béatrice Berru pour piano et transcription de l'apprenti sorcier pour orgue. Thank you.
Après Bolduca, venons-en maintenant à Gabriel Pierney. Gabriel Pierney est donc né en 1863 à Metz. En 1871, c'est-à-dire à l'âge de 8 ans, ses parents décident de quitter Metz pour Paris du fait du rattachement de Metz à l'Allemagne suite à la défaite française en 1871. Donc, fils de musicien, son père est professeur de chant, sa mère professeur de piano, et lui-même très doué pour la musique, et bien entouré évidemment par ses parents, il entre au Conservatoire de Paris, où là il aura de nombreux maîtres fameux, dont César Franck et Jules Massenet. César Franck et Jules Massenet, auxquels nous avons consacré, Paul et moi, des émissions sur les musiciens français. À ce conservatoire, il côtoie notamment Debussy, avec qui il sera très ami, et nous en reparlerons au cours de cette émission. En 1890, il succède à César Franck à l'église Sainte-Clotilde, où il va être l'organiste titulaire pendant 8 ans. Lui succédera Charles Tournemire. C'est toujours fascinant de voir dans ces grandes églises parisiennes les grands organistes qui s'y sont succédés, qui ont été à la fois des grands interprètes et des grands compositeurs. Gabriel Pernier opte pour le langage de son époque et de ses maîtres, notamment César Franck et Jules Massenet. On peut dire de lui qu'il est plus un assimilateur, fin musicien de musique, plus qu'un innovateur. En fait, il a un métier d'une sûreté absolue, une écriture limpide, une orchestration parfaite, une légèreté de touche, une verve et beaucoup de délicatesse. On est là dans un chapitre tout à fait différent de Paul Duca, qui lui-même a une musique, je dirais, beaucoup plus grave. Avec Pierney, on est dans la légèreté, mais la légèreté de très grande classe. Écoutons pour commencer une étude de concert pour piano, œuvre à la fois virtuose mais néanmoins accessible, qu'il écrit à 26 ans en 1887. Thank you. maintenant à la carrière d'organiste de Gabriel Pierné. En 1882, il a obtenu le prix de Rome, il compose donc, et en 1890, il succède à César Franck pour être titulaire de l'église de Sainte-Clotilde à Paris. Regardons quelques illustres organistes sur les grandes églises et les grandes orgues parisiennes. À Sainte-Clotilde se succèdent César Franck, Gabriel Pierné, Charles Tournemire, Jean Langlois, tous éminents compositeurs. À Saint-Eustache, il y aura André Marchal, notamment, ainsi que Jean Guillou. À Notre-Dame de Paris, le grand compositeur aussi Louis Vierne, et ainsi que Marcel Dupré. Et enfin, le très grand improvisateur Pierre Cochereau. Quand je dis enfin, en fait, je n'ai cité que les grands noms parmi des grands musiciens qui ont été organistes dans ces trois églises parisiennes. Nous allons écouter, pour illustrer le talent à l'orgue de Gabriel Pierné, une pièce pour orgue, un prélude, prélude opus 29, numéro 1, joué par Olivier Latry, en l'occurrence à Notre-Dame de Paris. En 1903, Gabriel Pianet devient l'adjoint d'Édouard Colonne, le fondateur des Concerts Colonne. Il en sera le chef de 1910 à 1934. Cette émission est placée sous le signe du contraste entre deux compositeurs, Paul Ducas et Gabriel Pianet, l'un très austère, c'est peut-être excessif, mais en tout cas très rigoureux, et Pierre-Ney empreint d'une grande facilité, de beaucoup de délicatesse. Eh bien, on va retrouver ce contraste dans le fait que si l'on ne peut pas qualifier de Gabriel Pierre-Ney de grand novateur en matière musicale, je l'ai déjà dit, eh bien, ce fut tout le contraire dans son activité de chef d'orchestre. Il aura joué les grands novateurs de son temps, Claude Debussy qui était son ami, Maurice Ravel, André Roussel, Stravinsky. Il aura même chaqué un de ses amis, en l'occurrence Camille Saint-Saëns, lui-même très épris de classicisme, en jouant Darius Milhaud. Saint-Saëns, par ailleurs, aussi grand organiste puisqu'il était le titulaire de la Madeleine. Écoutons maintenant, pour illustrer le grand talent et la beauté des œuvres de Gabriel Pierre-Ney, une pièce de concert pour harpe et orchestre, opus 39.
Thank you.
Gabriel Pernet s'éteint en 1937 dans la baie de Morlaix à Plougent, baie de Morlaix qu'il affectionnait particulièrement et dans laquelle il a passé ses vacances d'été en famille pendant 3 décennies. Cette même année sont décédés Charles Vidor, André Roussel, Henri Libert, Louis Vierne et Maurice Ravel. Nous avons écouté lors de cette émission tout d'abord L'apprenti sorcier de Paul Dukas, puis 2 transcriptions de L'apprenti sorcier du même Paul Dukas, l'une au piano faite et exécutée par Béatrice Berru et une autre à l'orgue jouée par Emmanuel Duperret aux grandes orgues de la cathédrale de Troyes. L'original, L'apprenti sorcier à l'orchestre, était joué par Mikko Frank, dirigeant l'orchestre philharmonique de Radio France. Ensuite, nous avons écouté l'étude de concert de Gabriel Pierné au piano par Laurent Vachal, puis le prélude opus 29 numéro 1 par Olivier Latry à Notre-Dame de Paris, et enfin Isabelle Moretti à la harpe, dans le Concertstück pour harpe et orchestre opus 39 avec le Rundfunker Orchester. Nous vous donnons rendez-vous pour le mois prochain pour une nouvelle émission. À bientôt.